choix est libre. Au FM 93, voici Luc Lavoie.
Bonjour Luc, comment vas-tu?
Allô Myriam, ça va et toi?
Oui. Luc, on a appris hier que le maire Labeaume souffre d'un cancer de la prostate. Je trouve qu'il a très bien fait ça. Il a annoncé ça publiquement. Il a expliqué qu'il allait déléguer, qu'il avait le devoir s'absenter à un moment donné, qu'il restait en poste quand même. Puis, tu sais, il a été transparent pour l'essentiel, puis on n'a pas besoin du détail.
Non, on n'a pas besoin du détail. Et il demeure mon Labeaume, alors je suis de tout cœur avec lui et avec le combat qu'il va mener. J'espère que M. Gosselin va bien.
Je sais pas. Mais Gosselin a souhaité bonne chance.
Tout le monde a été bien correct. C'est pas le temps de faire de l'humour, là, j'en conviens. Tout le monde a été très correct dans cette affaire-là.
C'est ne pas être d'accord avec quelqu'un, ça n'en fait pas un ennemi que tu veux abattre. Ça en fait un adversaire que tu veux convaincre.
Ouais, en tout cas, M. Labeaume, c'est vrai que dans les derniers mois, on sentait pas la même combativité. Je suis pas un médecin, là, ce que ça veut dire que la maladie avait commencé à faire son œuvre.
Moi, j'ai quelques amis qui ont eu des cancers et qui m'ont tout dit. Mais c'était des femmes, évidemment, c'est pas le cancer de la prostate, je sais pas du tout si ça a le même effet, mais qui m'ont toutes dit qu'elles ont souffert de très grandes fatigues inexpliquées avant d'être diagnostiquées.
Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Mais tu sais, c'est un métier de fou, hein. Ouais. C'est vraiment un métier de fou, celui pratiqué par les politiciens. Et je me suis mis à penser à ça. D'abord, ce que j'ai appris à côtoyer les politiciens et à travailler avec eux en mon temps, c'est qu'il faut que tu sois en forme. Hein? Il faut que tu sois en forme, absolument en forme pour faire ça. Parce que tu traverseras pas le temps. Alors moi, je pense, je regarde la politique du Québec. Duplessis est mort d'une attaque cardiaque en 59. Daniel Johnson, il était encore au pouvoir, forcément. Daniel Johnson en 68, même chose, une crise cardiaque. On a souvent oublié Robert Bourassa en 1990, qui s'est retrouvé à l'hôpital aux États-Unis, souffrant de mélanome cancéreux, qui ont fini par l'emporter.
Et pourtant, Robert Bourassa faisait tous les jours de la natation. Il se levait aux aurores et il allait faire de la natation. Je me demande si c'était pas deux fois par jour.
Il prenait pas une goutte d'alcool.
Non.
Il prenait pas une goutte d'alcool. Il fumait pas. Il a jamais fumé. Il faisait tout ce qu'il fallait pour se maintenir en forme.
J'ai fait un voyage avec Robert Bourassa dans le temps que je travaillais avec André Arthur à la baie James. Il nous avait fait visiter la baie James. Et le soir, il prenait un verre de lait et deux biscuits.
Oui, tout à fait. Je me souviens. Je me souviens qu'un jour, pendant qu'il était premier ministre, M. Mulroney et M. Bourassa, pendant que les deux étaient premiers ministres, ils avaient mangé ensemble au Club de la Garnison à Québec. Et bon, moi, j'étais à côté d'eux parce que, bon, au début, il y avait des médias qui sont venus prendre des photos. Puis après, je sortais. Puis j'entends le waiter, le serveur qui se présente à table. Puis, voulez-vous un apéro, quelque chose? M. Mulroney dit, moi, je vais prendre un club soda. M. Bourassa dit, moi, je vais prendre un verre de lait. Et là, j'entends Mulroney qui dit à Bourassa, il dit, Robert, nous autres, là, on a travaillé fort, puis tout ça. On est rendu pas mal loin, mais maudit qu'on est plate.
Mais est-ce que...
Je me reporte au... Oui, vas-y.
Est-ce que toi qui as vécu la politique de l'intérieur, est-ce que c'est un... J'ai l'impression que c'est de moins en moins une discussion, la transparence sur la santé physique des politiciens. Autrefois, on
d'abord,
en cachait.
C'est
Robert
moins
Bourassa,
crédible.
Il l'a caché, sa maladie.
Il l'a caché aussi longtemps qu'il a pu. François Mitterrand, c'était un scandale. Je veux dire, à chaque année, il publiait son bilan de santé qui était signé par un médecin et qui disait qu'il pétait le feu. La vérité, c'est qu'il avait le cancer depuis 1981, année de son élection. Et il faut se souvenir que son deuxième septennat, donc après 14 ans de pouvoir, quand il a quitté en 95, là, c'était ouvert, là, on le savait qu'il avait le cancer. Puis en fait, il pouvait plus le cacher parce que ça paraissait, puis... Il est décédé moins qu'un an plus tard. Alors, tout au long de ses 14 ans de pouvoir, il y avait un médecin à sa solde qui mentait effrontément. Il a d'ailleurs écrit un livre par la suite, ce médecin-là, pour dire qu'il avait honte d'avoir fait ça. Alors, c'est moins crédible que ça a déjà été. Donald Trump, on le décrit comme l'homme, c'est un surhomme, d'après ce que ses médecins disent. Personne ne croit ça un seul instant. Mais moi, j'ai vu de proche là, des politiciens vivre des stress. Je pense par exemple à M. Mulroney lorsque l'accord du Lac Meech est mort, 1990, juin 1990. je dirais, en crescendo à partir de mai, là, le départ de Lucien Bouchard, et puis là, le crescendo qui a mené à la mort du Lac Meech le 24 juin 1990. Le stress qu'il a vécu, en fait, par obligation professionnelle, je dirais même déontologique, j'irai pas dans les détails, mais il y avait des maladies de stress qui l'accablaient, c'était évident. Il était, comment on appelle ça, sa capacité d'attention, ce qu'on appelle en anglais attention span, se réduisait constamment. Il vivait littéralement obsédé par le dommage que cela allait infliger au pays, à lui, à son parti, à son gouvernement. C'était... Écoute, je souffrais en sa présence. Je me souviens même que... Tu sais, il y a eu une dernière négociation. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne se souviennent pas de ça, mais il y a eu un dernier rassemblement des premiers ministres pour essayer de sauver l'accord du Lac Meech que Clyde Wells du Nouveau-Brunswick de Terre-Neuve avait décidé de retirer l'appui. Donc, ça prenait l'unanimité des provinces. Là, ils les avaient rassemblés une dernière fois. Puis après, il était reparti chez eux avec l'engagement que Wells allait soumettre l'accord à un vote libre à sa législature, à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Et la même chose allait se passer au Manitoba. Et la semaine là, qui, entre les deux, là, on avait reçu au Canada Nelson Mandela. Et ça avait été une très grande visite. Évidemment, c'était peu après la libération de Mandela, après 27 ans de prison. Et il était accueilli en héros et tout ça. Et moi, j'avais organisé ce voyage-là, puis j'étais évidemment aux côtés du premier ministre à chaque instant. Bon, puis c'était quelque chose de plutôt joyeux, tu sais. C'était comme une libération, cette affaire-là. Puis moi, on le sentait, puis il avait beaucoup travaillé dans ça. En fait, il est considéré comme un des artisans de ceux qui ont réussi à le faire libérer, avec ses pressions sur le Commonwealth et de toutes sortes. Et on était dans une suite d'hôtels à Toronto. Je me souviens même de l'hôtel qui était l'hôtel Harbour Castle Hilton. Il était assis, là, puis il était là. Écoute, il pleurait pas, non, parce que c'était pas son genre. Mais il était transfiguré. Il était comme blanc, blanc, blanc. Puis j'essayais de lui parler, puis de lui dire, « Monsieur Mulroney, pensez-vous qu'on va s'en sortir avec tout ça? » Puis il me regardait avec des yeux un peu hagards, puis il disait, « Luc, je le sais pas. » Je le sais pas, demande-moi pas, là, je le sais plus, je le sais pas. Écoute, c'était, là, c'est... Ouf! Sur la place publique, il a gardé sa superbe. Mais en privé, là, oh boy! Et on m'a raconté, je l'ai pas vu, moi, j'étais avec lui, tu vois, le 23 juin, c'était un vendredi, l'accord du Lac Meech mourait le lendemain. Mais là, on savait que c'était mort parce que, bon, les délais étaient expirés dans les législatures provinciales et tout ce que tu veux, puis Elijah Harper, puis tout, des drôles de souvenirs, là. Et le 23 juin, on avait dû, pour toutes sortes de raisons trop longues et trop plates à expliquer, on avait dû déclarer officiellement que l'accord était mort. Il fallait faire ça parce qu'il y avait un enchaînement de choses qui devait arriver. Et moi, j'étais un de ceux qui, en compagnie de Paul Tellier, qui était greffier du Conseil privé, avions la tâche de le convaincre à petite dose que là, tu sais, il était rendu 6 heures le soir. On disait, là, M. Mulroney, il faut que quelqu'un sorte et fasse une déclaration pour dire que c'est mort. Puis là, il disait pas non. Il changeait de conversation, il regardait ailleurs. Je me souviens, on était dans son bureau de l'édifice du centre, puis il regardait par la fenêtre, il regardait dehors. Puis là, on faisait venir Don Mazankowski, qui était le vice-premier ministre et qui était très proche de Mulroney. Puis Mazankowski disait, écoute, Brian, il faut absolument, là, pour telle et telle raison logique. Il n'y avait rien à faire. On n'a jamais été capable d'obtenir de lui qu'il sorte publiquement pour dire c'est mort. Mais, à un moment donné, on lui a dit, Lowell Murray, qui était à l'époque son ministre responsable des affaires fédérales provinciales et principalement de cet accord-là, on a dit, Lowell Murray va y aller, ça va faire la job. Et il n'a jamais dit oui. Il nous a regardés. Il a jamais dit non. N'ayant pas dit non, nous autres, on a dit qui ne dit mot consent. Lowell, go. Avec Lowell était sorti, il avait fait sa déclaration, il devait être rendu comme 9h30 le soir, pas loin de 10h. Et, Mulroney, il l'avait regardé à la télé, puis tout de suite après que ça avait été fait, parce que je sais pas, vous connaissez peut-être pas les lieux, mais devant la Chambre des communes, c'est là que tu fais ce genre d'intervention-là. Il y a une sorte de hall, puis il y a des escaliers qui mènent directement dans le bureau du premier ministre. Moi, j'étais monté immédiatement dans le bureau du premier ministre pour voir comment il avait pris ça. Puis il était en train de ramasser ses choses, son manteau, possiblement un briefcase, je pense. Puis là, il a fait signe qu'il s'en allait. Et on me dit que quand il est arrivé chez eux, mais j'en ai pas été témoin, sa famille l'attendait et que ça avait été immensément émouvant. Immensément émouvant. A-t-il pleuré? Je ne sais pas. Personne ne me l'a jamais dit en ces mots-là.
Avez-vous craint qu'il développe une maladie à force d'être obsédé et triste par ça?
Oui.
Tu crois que certains cancers...
Moi, oui. Tout l'été 90 avait été terrible. On avait beaucoup d'obligations internationales, puis en même temps, la crise d'Oka avait éclaté.
Oui.
Comme je ne l'avais jamais vu, Brian Mulroney, évidemment, c'est un Irlandais avec le sang des Irlandais, puis il y en a beaucoup dans la région de Québec, là, Shannon, tout ce coin-là, dans le coin de Bellecartier, c'est plein, là.
Oui.
Ils savent ça, eux. Les Irlandais, ça le sent chaud, hein, ces émotions à fleur de peau. Fait que lui, il était un modèle... Ouais, les Italiens du Nord. Lui, il était un modèle de maîtrise de soi, Brian Mulroney, on peut dire ça. Mais l'Irlandais sommeillait là. Alors, je me souviens, on était là à Houston au sommet G7, là, puis il n'y avait rien pour l'arrêter. Là. Il voulait sacrer un tel dehors, puis telle affaire, on va te régler ça une fois pour toutes, puis un tel, il n'était plus capable de l'endurer. Puis... Écoute, il était... Et je pense que Mme Mulroney avait été évidemment celle qui l'a sauvé de ça, parce qu'ils se sont en allés à la résidence d'été à Harrington Lake, puis ils ont comme coupé les ponts avec le monde. Je dis pas qu'il était irresponsable et qu'il était pas disponible pour les grandes affaires d'État, mais le stress était en train de l'emporter. Lucien Bouchard, évidemment, il a traversé tout un parcours, ministre, démissionne, tata, toute l'affaire, chef du Bloc québécois, chef de l'opposition officielle... Moi, je suis pas médecin, je peux pas dire que la bactérie mangeuse de chair a quoi que ce soit à voir avec le stress. Mais j'ai parlé souvent à des médecins, pas de la bactérie mangeuse de chair, mais des experts me disent que le stress peut provoquer toutes sortes de maladies parce qu'il peut s'attaquer à ton système immunitaire.
C'est ça. C'est que ton système immunitaire descend.
Cheveu de la mort.
Puis ton système immunitaire descend et devient une terre fertile pour tous les envahisseurs.
Voilà. Voilà. Donc, M. Bouchard était passé à un cheveu de la mort, on le sait, à un cheveu de la mort. Et les gens savent moins, à part toi. Tout le monde a lu mon livre. Tu vois dans mon livre qu'on apprend que M. Mulroney est venu. Tu l'as pas lu, je le sais que tu l'as pas lu. Myriam, essaye pas. Là. Je le sais, je t'ai fait passer un test l'autre fois, tu t'en rendais même pas compte. Tu ne l'as pas lu. En tout cas, c'est pas grave, mesdames et messieurs, Myriam ne veut pas lire mon livre parce qu'elle pense que je la trompe, que je suis infidèle. Enfin, peu importe. Monsieur Mulroney est tombé malade en 2005. Il venait de traverser une période dans laquelle je n'ai pas envie de m'embarquer, là, mais qui avait été pas mal rough, là. Et lui aussi est passé un cheveu de la mort. Il souffrait d'une pancréatite. Il avait été cloué dans un lit d'hôpital. Il souffrait de plaies de lit. C'était extrêmement souffrant de le voir. Et on a craint vraiment pour sa vie pendant une période d'à peu près 12 heures. Les médecins nous avaient dit, il faut commencer à penser à la possibilité d'un décès. Je te dis que ça m'avait donné tout un choc. J'ai pas besoin de te dire. Alors, tout ça pour dire que de savoir M. Labeaume malade dans des fonctions comme celles qu'il occupe, à un moment crucial où il y a des gros dossiers qui sont pas réglés et où Québec aurait besoin. Ouais, ça arrive drôlement mal parce que Québec présentement aurait besoin d'un gars en pleine santé parce qu'il faut qu'il se batte avec Ottawa puis le CN puis ci puis ça, c'est rendu une vraie farce toute cette affaire là. On sait plus si le tramway va être financé dans quelle enveloppe, puis l'enveloppe à qui, puis l'enveloppe brune, puis l'enveloppe jaune, puis l'enveloppe verte. Puis là on est en train de ça nous prendrait un Labeaume plein de ressorts. Ceci étant dit, je pense qu'il va être encore actif pendant un certain temps, mais j'ai un très proche ami qui a vécu ce qu'il a vécu il y a 3 ans. C'est vrai que pendant un temps, tu tiens le coup, mais je te jure qu'après, là, je sais pas si c'est vrai pour tout le monde, ils s'en remettent, parce que c'est un des cancers qui se soigne le mieux statistiquement. Mais
on vient de parler.
Je dis que t'en as...
On vient de parler au député
On
vient de parler au député Marc Picard qui nous dit il faut aussi prendre le temps de se reposer après. Autrement dit, de recharger nos batteries.
Oui, de se reposer. Puis moi, mon souvenir de mon copain dont je parle là, et qui m'entend peut-être et qui s'en souvient, c'est que lui, il pensait que après tous les traitements puis tout ce qui venait avec, bon, dans un mois, on va être correct. Oh boy, il a réalisé que ça avait pris des mois. C'est un gars qui faisait beaucoup de sport, ce gars-là. Bah, on sort la bicyclette, puis on part. Il faisait quatre coins de rue, puis il revenait. Mais la langue à terre, plus d'énergie, dormait 12-13 heures par jour. Maintenant, il pète le feu. Là. Ouais. Si M. Labeaume nous entend, là, le même gars là, qui a traversé ce combat-là, je te le dis, là, il est aussi en santé. Il n'a même pas vieilli à travers de ça. Donc, la science a fait son travail. Le cancer, on est de mieux en mieux dans nos façons de le combattre. Il y a des types de cancers comme celui-là qui, quand ils sont détectés à temps, les chances de s'en sortir sont extrêmement élevées. Alors, M. Labeaume, revenez-nous. Je pense que même vos adversaires, je pense qu'il y a unanimité dans la communauté, à Québec et ailleurs dans le Québec. Oublie pas ça, c'est rare, Myriam. Quand Jean Pelletier était maire de Québec, quand M. Lamontagne était maire de Québec, on ne savait pas trop c'était qui dans ailleurs qu'à Québec. Régis Labeaume, là, parle-en n'importe où, là.
Ouais.
Va dans Baie des Chaleurs, va dans l'Outaouais, va partout. Régis Labeaume, Québec, c'est la même chose.
Mais tu sais, face à la maladie, on est juste des humains et on est tous des humains.
Les
opinions politiques
humains,
ont pas beaucoup d'importance face à la maladie.
Et je pense que s'il y a quelque chose, moi, si j'étais Joël Lightbound, puis Duclos, puis la gang des libéraux fédéraux, je dirais, écoute, là, on va finir la bataille tout de suite. Là. On va aider tout le monde, on va aider la communauté, puis ça va probablement aider M. Labeaume. On va arrêter de se battre avec des niaiseries, puis des chiffres, puis des comptabilités à pu finir, puis des patentes à gosse qui commencent, genre, n'importe ça à la tête des ententes. Alors, M. Labeaume, on est avec vous de tout cœur. Tout le Québec est avec vous de tout cœur. Tout le Québec. On en parle à Montréal, on en parle dans l'Outaouais. Je fais des collaborations à une station là-bas. Écoute, c'est un personnage plus grand que nature.
Merci beaucoup, Luc Lavoie. Salut.
Salut, Myriam.
À demain.
Ouais.
Midi 4.